Donc aujourd'hui, pour le moment de réflexion autour de la parole de Dieu qu'on a déjà entamé, mais qu'on poursuit maintenant, on a pensé que ce serait bien de réfléchir à la question si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Alors, je suis sûr que quand vous entendez cette phrase, ce titre, vous êtes déjà posé la question, ou au moins on vous l'a déjà posé. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les discussions. En termes techniques, on dit que c'est une théodicée. On essaie de justifier Dieu, on essaie de justifier l'existence de Dieu. Et souvent, quand on veut faire ça, un des points sur lesquels la conversation s'arrête, c'est la question du mal. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a le mal aussi qui existe? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal, même? Pourquoi à ce niveau-là dans le monde? Et c'est une question difficile, on doit le reconnaître, même pour le croyant en Dieu, même pour un pasteur, même pour quelqu'un qui est bien ancré dans sa foi, c'est pas une question simple quand on nous la pose. Alors, à combien plus forte raison pour ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et on comprend, et ça pose un souci. C'est une question difficile parce que, au-delà de notre raison, qui a des limites, puisque nous sommes des êtres finis, limités, il y a aussi beaucoup d'émotions et des histoires très personnelles, intimes, qui sont réveillées par cette question. Des craintes, des peurs pour l'avenir, si on n'a pas encore été particulièrement atteint par le mal. Donc sans minimiser ce que j'ai préparé, ce que je vais vous apporter cet après-midi, il faut qu'on soit conscient aussi que dans un sens, on ne va pas faire le tour de toute la question cet après-midi. Ce n'est pas ma prétention, en tout cas, dans les minutes qui vont suivre. Par contre, j'ai un objectif, mon désir, c'est que après ce temps qu'on a passé ensemble cet après-midi, on commence à répondre à certaines questions. C'est qu'on soit conforté dans notre confiance dans la Bible et le Dieu souverain, infiniment sage et bon, qui se révèle par cette parole. Et qu'on trouve et qu'on ait, en repartant, des sources de consolation. Et en particulier pour ceux qui sont particulièrement en lutte avec le mal, qu'ils puissent repartir encouragés cet après-midi. On veut se préparer aussi pour des moments où cette lutte pour être vive dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, je vous invite juste à demander encore l'aide de Dieu avec moi et pour moi pour aborder ce sujet un peu plus en avant. Je vous invite à prier pour toi. Père Céleste, on vient à toi. À qui d'autre pourrait-on aller sinon toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, tu as des paroles qui peuvent toucher notre cœur, qui peuvent nous réconforter, qui peuvent guider notre raison, nos pensées. Et on veut vraiment se remettre entre tes mains, te demander que, par ta grâce, ces quelques minutes qui viennent nous aident à mieux te faire confiance, mais nous aident à recevoir ta consolation, voilà, chasse la confusion qu'il peut y avoir dans mon cœur autour de cette question. Si tu es là, pourquoi permets-tu toutes ces choses? Une mauvaise qui nous arrive. Seigneur, aide-nous. Amen. Il y a plusieurs parties, mais la première partie, elle est évidente, et vous allez être d'accord avec moi. C'est une réalité qu'il y a le mal dans le monde. C'est une réalité que les choses ne tournent pas rond dans le monde. Et du coup, pour moi, en tant que chrétien, pour ceux qui sont chrétiens ici, c'est un bon réconfort, n'est-ce pas, de savoir que c'est une interrogation qui n'est pas non plus étrangère à la Bible. Parce que la Bible dit des choses par rapport à l'existence du mal. Elle n'est pas silencieuse sur la question. Et même, elle est très proche de ce qui peut jaillir au fond de nous quand on est confronté à cette question du mal. Même des prophètes, des gens qui sont utilisés particulièrement par Dieu pour faire du bien, pour enseigner le peuple, qui reçoivent quasiment directement les paroles de Dieu, sont capables de dire des choses comme, par exemple, le prophète Habacuc. « Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu m'entendes? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu contenter d'observer les méfaits qui se commettent? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit ne triomphe pas, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus rendu, c'est Habacuc, un prophète de l'Éternel, qui a les mêmes questions que nous. Pourquoi, Seigneur? Et jusqu'à quand? Et pourquoi ce niveau-là de mal et de souffrance dans nous? Jérémie, vous connaissez, dans le chapitre 12, il dit « Tu es juste, Éternel. Comment donc oserais-je contester avec toi ?» Donc il est bien à sa bonne place d'être humain créé. Il ne veut pas trop contester, mais en même temps, c'est plus fort que lui. Il continue « Cependant, je voudrais discuter avec toi de ta justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils? Pourquoi les traîtres vivent-ils si tranquilles? Oui, tu les as plantés, ils ont pris racine, ils progressent sans cesse et ils portent du fruit. Ils ont ton nom à la bouche, mais tu es très loin de leur cœur. Jusqu'à quand ? Il y a ce refrain qui revient régulièrement dans la parole, n'est-ce pas ? Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil ? Et l'herbe des campagnes se desséchera-t-elle ? Et tout cela à cause de la majesté de ceux qui y habitent. Il est en train de dire que même le mal a un impact sur l'être humain et même la création tout entière. On le voit aussi le jour, n'est-ce pas, sur, en termes de la pollution, les dégâts que l'homme crée dans la nature. Psaume 13. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin en cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Fais briller mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Psaume 22. Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. On dirait que parfois, ce n'est plus le cas. On est obligé de constater, mais on parle au Seigneur, on lui expose tout ce qui ne tourne pas rond, et on dirait qu'il est muet, sourd, qu'il ne répond pas. Et pourquoi? Pourquoi? Et jusqu'à quand? Vous connaissez sans doute l'histoire de Job. Un livre entier de la Bible est consacré à cette question. Comment vivre avec Dieu face au mal et à la souffrance? Et il y a de nombreuses pages encore dans la Bible qui parlent de ce problème. Si Dieu existe, qu'il est saint, qu'il est bon, pourquoi est-ce qu'il existe aussi le mal? On n'a pas le temps aujourd'hui de lire tous ces textes, bien sûr. Mais j'aimerais déjà à ce point de mon exposé vous encourager les uns les autres à ne pas attendre et à faire quelque chose de très concret dès aujourd'hui et continuellement, de nourrir vos pensées et votre cœur des paroles de vie qui se trouvent dans la Bible. De telle sorte que vous soyez équipés pour lutter contre le mal qui veut se faire une place en nous et auquel nous sommes confrontés dans ce monde. Que vous soyez équipés pour faire face dans la foi au mal qui s'abat sur nous par les circonstances des personnes extérieures à nous. Parce que même si on n'a pas encore éventuellement si durement que ça éprouvé le mal, certainement ça va arriver dans notre vie. Avec les années, avec les mois qui viennent. Préparons-nous, armons-nous, équipons-nous en comprenant qui est Dieu et en comprenant quelle est notre place dans ce monde. Car la Bible ne fait pas que faire écho aux interrogations que nous pouvons avoir aujourd'hui. Elle apporte aussi du réconfort. Elle apporte aussi de la paix. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de réconfort, de cette paix qui vient de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de manières dont le mal nous atteint encore aujourd'hui. Là, on a regardé des prophètes des temps anciens, c'était bien, bien longtemps. Mais encore aujourd'hui, n'est-ce pas, on est confronté à la même question. Et si on veut zoomer, on part de très loin. Au début, c'est juste global et très lointain, n'est-ce pas? On voit la guerre au Moyen-Orient, combien de morts en Syrie, combien de réfugiés. On a encore le cœur brisé par la photo du petit garçon de 3 ans, Aylan Kurdi, pour vous rappeler de lui, mort avec sa famille après le naufrage. Une embarcation alors qu'il essaie de rejoindre l'Europe, la sécurité, pourquoi? Pourquoi c'est possible? Et un des commentaires à l'époque, sous cette photo, c'était « L'humanité est en train de mourir ». Mais oui, si des telles choses arrivent pour des êtres fragiles comme ça, alors qu'est-ce qui se passe pour toute l'humanité? Et de ces guerres lointaines, on a aussi constaté qu'elles n'étaient pas si loin que ça de nous, finalement, avec les séries d'attentats qui ont marqué ces dernières années. On voit des guerres, pas forcément militaires, mais plus discrètes et tout aussi féroces, des guerres économiques, des guerres politiques, des guerres d'influence. Combien de personnes meurent de faim, non pas parce qu'ils ont été chassés de leur maison, mais parce qu'il y a des pressions économiques qui sont faites sur les pays, sur les petites gens, etc. Combien d'enfants, de familles, du coup, sont pris au piège dans un système tel que celui-là. Vous avez peut-être vu cela, l'ONG Oxfam, qui annonçait au début de 2016, donc de l'année dernière, que selon ses calculs, la fortune des 1% les plus riches du monde dépasse pour la première fois celle des 99% restants. Incroyable, n'est-ce pas ? Et les 62 personnalités les plus riches du monde possèdent une richesse équivalente à celle de la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,2 milliards d'êtres humains. Alors on se dit, mais cette balance, elle est fausse, elle n'est pas juste, ça ne marche pas. Pourquoi Dieu ? Jusqu'à quand ? Il y a beaucoup de ces inégalités qui attisent les haines, la suspicion et des solutions qui semblent un peu au point mort. Ça, c'est loin, parfois, mais on continue à zoomer plus près de nous. J'ai appris hier soir en écoutant la radio qu'un adolescent de 15 ans a été battu par son beau-père de telle sorte qu'il est mort. Et on interroge les voisins, et tout le monde se dit la même chose, comment c'est possible ? On n'avait rien vu, on n'avait rien remarqué, ils étaient sans problème, ces voisins. Régulièrement, les faits divers nous montrent que le mal est présent dans notre société ici. Encore plus près de nous. Bonne année, bonne santé. Vous l'avez entendu une paire de fois, hein, au début de 2017. Bonne année, bonne santé. Moi, j'ai des amis, leurs parents ont un cancer. Alors, à quoi ça sert de souhaiter ça ? Bonne santé, ça exprime notre peur, tout autant qu'un souhait, n'est-ce pas ? Parce que la maladie est terrible, elle nous rappelle que nous sommes mortels. Elle est juste l'annonce de la mort qui viendra sans doute trop vite. Et la mort nous rappelle que nous sommes vite passés sur cette. Et de nouveau, on revient à cette même question, mais pourquoi alors ? Pourquoi Dieu permet ça ? Pourquoi Dieu qui nous a créés, qui est censé nous avoir créés, permet de telles choses ? Il y a beaucoup de souffrances physiques et des souffrances morales qui sont cachées, mais bien réelles. Des brimades au travail, dans la famille. Il y a beaucoup de raisons de constater que nous sommes ou avons été victimes du mal. Et la Bible nous apprend à souffrir avec ceux et celles qui souffrent, à pleurer avec ceux et celles qui pleurent. Et oui, nous prenons en compte la souffrance de ceux qui sont victimes du mal, parce que Dieu lui-même ne la considère pas comme quelque chose de léger, de négligeable, de ridicule, au contraire, il se soucie. Le Seigneur ne se réjouit pas du mal. C'est encore un psaume qui nous dit ça, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Et nous pouvons prier comme le psalmiste au psaume 7, verset 10. « Mets un terme au mal que commettent les méchants, je t'en prie. Affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. » Nous pouvons demander que Dieu arrête le mal parce qu'il est un Dieu juste. Et Jacques qui nous apprend ça aussi encore. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « C'est Dieu qui me met à l'épreuve. » Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal. Et l'apôtre Jean, encore dans sa première épître, dit « Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Alors, on arrive un petit peu à un certain nombre de questions, j'arrive juste, mais je voudrais encore zoomer un petit peu plus près. Parce qu'on peut zoomer encore plus jusque dans notre propre cœur, au cœur de nous-mêmes. Notre zoom sur le mal dans le monde, malheureusement, ne peut pas s'arrêter là, juste à la porte de notre être. Il nous faut reconnaître aussi que le mal est à l'œuvre en nous-mêmes, dans notre propre cœur. Que le poison a pénétré jusque-là et que c'est même de là qu'il se répand toujours plus. C'est encore l'expérience de ceux qui nous ont précédés. David, au psaume 51, il dit « Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Envers toi, toi seul Dieu, j'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaisait. » De sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché. Et il faut vite balayer fausse compréhension, péché égale sexualité. Ok, rien à voir. Ce que David est en train de dire, c'est que le péché habite en lui depuis sa naissance, depuis même sa conception. Et il ne peut pas s'en défaire. Et en fait, ça colle à la peau de tous les êtres humains. Ce qui fait que nous tous ici, cet après-midi, personne ne peut dire « moi je suis que victime du mal ». On doit tous admettre que nous sommes victimes, bien sûr. Mais parfois, trop souvent, plus que ce qu'on voudrait, peut-être. Nous sommes aussi les acteurs du mal. Et c'est ce qu'affirme Jésus. Jésus qui connaît bien ce qui est dans l'être humain, puisqu'il est le Créateur. C'est par sa parole, c'est lui la parole qui a fait le monde. Et il dit « car c'est du cœur que viennent raisonnements mauvais, meurtres, adultères, inconduites sexuelles, vol, faux témoignage, calomnie. Voilà ce qui souille l'être humain. Mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'être humain. » Il était bien sûr, il disait cela pour faire ressortir l'hypocrisie de la religion qui essaie juste de blanchir la façade extérieure et qui ne traite pas le vrai problème du cœur. Quelle légitimité est-ce que j'ai pour vous parler de ces choses ? C'est bien de nous parler de notre cœur, toi. Ben, je suis un être humain comme vous. D'abord, qui du jour au lendemain peut recevoir un coup de fil du médecin qui m'annonce que je dois me préparer à des mois difficiles. Parce que cancer, ou quelle autre maladie, je ne sais pas quoi. Un coup de fil de la police qui m'apprend que il y a un accident sur la route. Et aussi, parce que je suis un être humain comme vous, qui doit reconnaître avec vous que la justice n'habite pas en moi. Naturellement, que je ne suis pas que victime du mal, mais aussi parfois un acteur du mal. Alors ça nous amène à nous questionner. On a entendu un certain nombre de choses, on a entendu les prophètes, on voit les réactions qui sont nous, on constate les choses qui sont dans le monde. On se dit, mais justement, si Dieu est là, s'il existe, s'il constate comme nous toutes ces choses, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Ce n'est pas possible. S'il y avait un Dieu, de telles choses ne pourraient pas se produire. La réponse que beaucoup apportent parfois, c'est « puisqu'il y a tellement de mal dans le monde, c'est que Dieu n'existe pas ou qu'il n'est pas capable de régler le problème. » Peut-être Dieu est-il lui-même victime du mal, de la maladie. Peut-être est-il infirme, muet, incapable de prononcer une parole pour que ça cesse. Peut-être il est manchot, peut-être il est paralysé, incapable d'étendre son bras pour mettre fin à tout cela et punir les fauteurs de troubles. Peut-être est-il atteint émotionnellement ou intellectuellement, immature ou dépassé par le monde qu'il aurait fait. En même temps qu'on est tiraillé par ça, ça ne nous satisfait pas, ça la pousse. Un écrivain que vous connaissez peut-être, René Barjavel, dans un livre qui s'appelle « La fin du tigre », exprime avec une certaine lucidité le problème. D'un côté, il reconnaît que l'examen de notre univers, sans parti pris, impose à notre logique la conclusion qu'il est le fruit d'une intelligence inventive et d'une volonté planificatrice. Toutefois, il ne croit pas en Dieu de la tradition chrétienne, car il constate que, entre la constitution du monde vivant et son fonctionnement, entre les merveilles dont il est fait et l'horreur pour laquelle il semble avoir été fait, il y a une contradiction suffocante. En effet, la Bible affirme que Dieu est tout-puissant, est souverain dans toute sa création. On le constate, regardez le Luberon, regardez la colline Saint-Jacques, mais aussi qu'il est bon et juste dans tout ce qu'il fait. Regardez la capacité des êtres humains à s'aimer, regardez l'amour d'une maman qui porte son bébé 9 mois, qui la reçoit dans ses bras. C'est juste magnifique, n'est-ce pas? Alors la question, mais en même temps, voilà, c'est ce mal qui persiste. Et la question est pertinente. Si c'est le cas, pourquoi Dieu permet que ses créatures souffrent et fassent souffrir autant? S'il aime réellement sa création, pourquoi n'intervient-il pas pour enrayer le mal? Alors, je vous invite à un raisonnement. Ça ne va pas résoudre tout, mais je voudrais aborder la question sous ce point-là maintenant. Si on essaie d'enlever Dieu de l'équation, qui serait une tentation assez naturelle, puisque, en fait, penser que Dieu est là, mais il est incapable, ce serait peut-être plus simple de penser qu'il n'y a pas de Dieu. Mais si on fait ça, si on essaye d'enlever Dieu de l'équation, ça ne fait qu'augmenter notre désespoir. Et je voudrais vous montrer ça. D'abord, la première chose qu'il faut qu'on pense, Essayez juste de vous remémorer la dernière fois où vous avez eu un coup dur, vraiment dur. Quelle a été votre expérience naturelle? Quand un mal nous atteint, que nous sommes témoins de quelque chose de mal, n'est-ce pas qu'en nous, on s'exprime, on dit « Mon Dieu !» ou simplement « Dieu !» Et parfois, on dit « Dieu !» avec le poing levé contre lui, avec la colère au ventre, avec un esprit de défi. « Dieu, mais pourquoi ?» Parfois, dans un cri de détresse, un appel au secours. Mais quoi qu'il en soit, ce qui arrive ne devrait pas arriver. C'est tellement en dehors de ce qui est juste. Et du coup, ça nous demande, ça crée en nous le désir, le besoin d'en appeler à Dieu. C'est tellement énorme et incompréhensible que nous cherchons quelqu'un à qui partager ce qui nous agite. Et on regarde autour de nous, on voit des êtres humains, hommes, femmes, de la même nature de nous, incapables de répondre à cette même question. Donc on cherche plus haut. Dieu, mais que fais-tu dans cette situation? Et mon constat, je ne sais pas si vous le partagez, mais mon constat, c'est que les hommes, naturellement, se tournent vers Dieu quand quelque chose ne tourne pas. Même quand ils n'ont jamais songé à lui auparavant, arrive un coup dur et ils crient Dieu, soit en cri de détresse, soit en colère. Je ne dis pas que c'est toujours apaisé, mais je dis que ça vaut la peine de noter ce réflexe chez nous. Pourquoi ? N'est-ce pas le témoignage que nous reconnaissons que Dieu est juge et puissant et qu'il doit se soucier de nous? N'est-ce pas une manière de reconnaître ou du moins d'interpeller Dieu sur ce qu'il est ou devrait être ou ce qu'il doit être précisément? Un Dieu juste, tout puissant et bon? Mais réfléchissons, essayons de rentrer dans un petit raisonnement ici. Si on essaye encore d'enlever Dieu de l'équation, on se retrouve encore plus désespéré. Malgré ce réflexe naturel chez nous d'en appeler à Dieu, certains essayent de résoudre le problème en sortant Dieu, peut-être vous, cet après-midi. Mais réfléchissez, si nous nous horrifions de l'existence du mal, c'est bien parce que nous estimons que le mal est réel, qu'il y a un mal qui existe. Et si on estime qu'il y a le mal qui est réel, alors on est obligé de reconnaître qu'il y a un bien, sinon on ne pourrait pas distinguer l'un de l'autre. Et si nous estimons alors que le bien et le mal existent, que les deux sont des réalités, que le mal est une réalité scandaleuse qui ne devrait pas être, et le bien une réalité qui est dans l'ordre des choses, qui produit non pas du scandale mais des fruits positifs, si nous reconnaissons ça, alors nous devons reconnaître l'existence d'une loi morale qui nous permette de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Où est la frontière entre les deux choses? Il faut qu'il y ait une norme morale objective qui dise, voilà, tel acte, telle parole, telle pensée, telle attitude, c'est bien. Et cette même norme morale objective qui puisse dire avec vérité, avec certitude, cette parole, cet acte, cette pensée, cette attitude, ça c'est mal. Et si une telle loi morale objective existe, alors, il faut qu'il y ait un être, une personne qui donne cette loi, qui soit habilitée à donner cette loi. Et il faut que cette personne qui donne cette loi, qui édicte cette loi, soit elle-même une personne morale, qui est en elle-même capable de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, qui a le pouvoir de dire ça c'est bien et ça c'est mal. Et c'est la prérogative de Dieu, n'est-ce pas? Alors si on enlève Dieu, et qu'on dit qu'il n'y a personne qui a édicté une loi morale, qu'il n'y a pas une telle chose telle qu'une loi objective qui définit ce qui est bien et ce qui est mal, alors nous sommes laissés tout à fait seuls avec notre chagrin. Il n'y a pas de justice à attendre, il n'y a pas de justice à faire. De quoi se plaindre? Ce que toi tu estimes mal, l'autre va trouver que c'est bien. Ce que l'autre estime bien, toi tu vas estimer que c'est mal. De quoi se plaindre? On est juste des atomes qui bougent, c'est l'évolution de la société. C'est mal selon toi, mais c'est bien selon lui. Moi, je ne sais pas encore. Vous savez que les nazis en Allemagne, dans les années 40, ils étaient persuadés de faire quelque chose de positif et de bon pour l'humanité. On peut être carrément à côté de la plaque, n'est-ce pas? Il y a eu justement il y a quelques jours, les 72 ans de la libération du camp d'extermination mis en place par les nazis à Auschwitz. Et la première ministre polonaise, qui présidait aux commémorations, a dit « Personne ne peut comprendre cette souffrance. » On retrouve ces mêmes questions. Pourquoi c'est arrivé? Et puis elle a dit aussi « Je souhaite qu'une nouvelle fois s'échappe de ce lieu le message selon lequel ce qui s'est passé dans ce camp allemand était le mal. » Mais pour qu'on puisse dire « Voilà, ce qui s'est passé là, c'est mal », il faut qu'il y ait une norme objective, pas juste la majorité qui décide « Pour nous, c'est mal » ou « Pour nous, c'est bien ». Sinon, ça va changer, varier selon le temps. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une norme objective fixe qui dise ça c'est bien, ça c'est mal. Et nous voulons la justice. Vous voulez la justice. Depuis que vous êtes enfant, vous vous rappelez les histoires de Zorro qui délivre les faibles et les opprimés, qui démasque les méchants? Ça vous faisait vibrer déjà à l'époque. Et encore aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose d'utile pour la justice, on est soulagé, on aime ça, on désire ça. Et particulièrement quand c'est nous qui sommes victimes, on veut que la justice se fasse. Et on n'aime pas, voilà, on n'aime pas que ça dans les films. Si quelqu'un prend le goûter d'un autre, triche à un jeu pour gagner, triche au travail pour obtenir une place devant nous, je ne sais pas quoi. On va vouloir la justice maintenant. On va vouloir la justice. Arrivé à l'âge adulte, c'est le même cri du cœur qui résonne chez nous. On désire tous une rédemption, être libérés de ce monde et du mal. Libérés extérieurement, mais aussi, si nous avons compris, de ce mal intérieur qui fait que nous sommes aussi des acteurs et pas seulement des victimes. Pas seulement des victimes du mal dans le monde. Et que pour cela, nous méritons tout autant les conséquences éternelles du châtiment. Il y a quelques semaines, j'ai été voir un film avec Timothée. Ça s'appelle Sully, je vous recommande vivement, c'est un très très bon film, je ne perdrai pas votre temps d'aller en voir. Ça retrace l'histoire de cet avion, et donc du pilote, et son copilote, qui a amerri sur le fleuve Hudson, à New York, c'était en 2009, le 15 janvier 2009. Il a fait une manœuvre périlleuse, d'extrême urgence, risquée, mais qui a sauvé la vie de tout le monde à bord. Ça paraissait un vol de routine, tout paraissait bien, décollé. Et juste quelques secondes après, ils ont frappé quelque chose qui ne devait pas arriver. Tout un vol d'oiseaux, ça a endommagé les réacteurs et l'avion ne pouvait plus atteindre son objectif. C'est une assez belle parabole de l'humanité, n'est-ce pas? Dieu a tout créé, ça démarrait bien, ça décollait et puis boum, la chute. Boum, l'entrée du mal dans le monde. Et après, ça capote. Et on dirait que tout va mal terminer. Et donc, à un moment du film, on voit, après que l'avion a atterri sur le fleuve, on voit tous les 155 passagers, sains et saufs, en train de sortir petit à petit sur les ailes de l'avion, se tenir sur les ailes de l'avion qui flottent encore au-dessus de l'eau. Et puis, on voit les barges, donc les ferries, qui accourent de tous côtés, 3, 4, 5, qui arrivent, et puis petit à petit, les passagers épuisés à bord des bateaux. J'ai pas peur de vous dire, j'ai pleuré. Et ça a vibré en moi, parce que c'est exactement ça que nous désirons. C'est exactement ça dont on a besoin. C'est une belle image, en fait, de ce que nous avons besoin. Nous sommes mal barrés, nous sommes mal partis, il y a eu un crash, et ce qu'on désire, c'est d'être sortis de cette situation. On désire voir arriver ces bateaux, ces ferries, pour nous sortir de ce monde marqué par le mal. On ne peut pas s'en sortir en mettant Dieu en dehors de l'équation. Nous sommes juste laissés à nous-mêmes avec plus de désespoir, au contraire, si nous essayons de faire cela. Et sans pouvoir cet après-midi aller beaucoup plus loin dans ces raisonnements, j'aimerais finir avec le message central de la Bible. La Bible, elle est réaliste, elle affirme que la création entière est soumise à la futilité, elle est soumise au pouvoir, à la domination de ce mal qui est agissant. Mais avec une espérance. Dans Romains, au chapitre 8, si vous voulez, ça peut être un bon moment d'ouvrir la Bible et d'avoir ce texte devant vos yeux, de mettre un petit signe pour y revenir pendant cette semaine. Romains, au chapitre 8, le verset 18. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens à Rome et il dit ceci, Romains 8, 18. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et il n'y a qu'une seule réponse, en fait, pour comprendre qui a soumis la création à la futilité. Ça ne peut pas être le diable, il y a une créature, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Ça ne peut même pas être Adam et Ève quand ils se sont détournés. Bien que ce soit ni l'un ni l'autre, ils ont tous, ces trois personnes, des responsabilités dans l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais s'il y a bien quelqu'un qui a permis cela, qui a voulu ça, qui est au contrôle de ça, celui qui a véritablement laissé les choses comme ça, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est selon. Et ça paraît dans un sens terrible. De nouveau, on a envie de dire, mais pourquoi Dieu? Et jusqu'à quand? Et en même temps, c'est la plus belle réponse. Parce que si c'est lui qui l'a soumise, alors c'est lui aussi qui est capable de sortir la création de l'état dans lequel elle se trouve, soumise à la futilité. Et c'est pour ça que Paul peut dire, en effet, la création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec une espérance. Et cette espérance, elle est vraie et entière. Nous sommes victimes et acteurs du mal. Mais nous pouvons regarder à Dieu et voir comment lui gère cette situation-là. Quelle est l'espérance qui nous est donnée? Et la meilleure manière de voir comment Dieu, dès maintenant et pour la suite des temps, va manifester, rendre réelle cette espérance, c'est de regarder à Jésus. La meilleure manière de constater ça, c'est de regarder à la croix. Nous sommes victimes et acteurs du mal. La justice de Dieu se révèle à la croix. En particulier, si nous sommes victimes du mal, nous souffrons aussi de nos propres fautes. Et nous sommes nous-mêmes, donc, partie prenante du problème. Alors regardons à la croix, regardons à Christ. Qu'est-ce qui se passe à la croix? Christ a accepté de venir et de porter sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous à cause de notre dans notre propre cœur. Donc regardons à la croix et nous voyons, nous cherchons la justice, nous désirons que Dieu fasse justice et nous découvrons qu'en effet il l'a fait. En effet, il n'a pas fermé les yeux sur les mauvaises choses de ce monde. Et ce qui nous étonne le plus, c'est qu'il n'a pas fermé les yeux sur notre propre péché, mais qu'il l'a réglé en faisant payer la dette à quelqu'un d'autre que nous, à son propre fils, qui était d'accord de faire ça, qui était d'accord de faire que la justice de Dieu se révèle et soit manifestée. Nous sommes victimes et acteurs du mal, mais la justice de Dieu se révèle à la croix. Nous sommes victimes du mal et nous souffrons aussi de nos propres fautes, et regardons de nouveau à la croix. Regardons parce que nous voyons alors que Dieu n'est pas un Dieu qui donne des conseils de loin. Il n'est pas un Dieu qui s'est désintéressé de nous en nous laissant pourrir dans nos situations. Au contraire, il a pris soin de nous. Il en a donné une preuve tangible, objective, en Jésus-Christ. Dieu le Fils a quitté la gloire qu'il avait auprès de son Père pour venir dans le monde, pour ôter la souffrance. Et Dieu alors manifeste son amour aussi de manière éclatante à la croix. Nous demandons, si Dieu est juste, pourquoi est-ce qu'il permet ça? Regarde la croix et vois comment Dieu règle le problème de la justice. Il y aura un jugement. Le jugement s'est déjà abattu sur Christ. Pour ceux qui mettent leur foi en lui, ils seront déclarés justes. Pour tous les autres, il ne reste que l'attente du jugement. On se demande, si Dieu existe et qu'il est bon, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Mais regarde aussi à la croix. Parce que Christ manifeste de quel amour Dieu nous a aimés. Alors que nous étions encore sans force, pécheurs, Christ est mort pour nous. Ésaïe 53 le dit aussi dans ses propres mots. Le prophète Ésaïe, 700 ans avant la croix, annonçait déjà cela. Il parle de Jésus, il dit « méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne. Il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. » En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrisseurs que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Voilà la réponse de Dieu. Si tu es victime du mal, Jésus a porté sur lui les souffrances, il s'est chargé de tes blessures pour que tu puisses être guéri. Pour que de ces blessures-là, tu ne ressortes pas cassé, mort, mais au contraire, que tu aies la vie. Et Jésus s'est chargé aussi de nos fautes, de nos transgressions, pour que nous n'ayons pas à porter nous-mêmes un jour, devant Dieu notre juge, le poids de nos propres erreurs. L'amour de Dieu se révèle à la croix, la justice de Dieu se révèle à la croix. Nous sommes victimes et acteurs du mal. Un changement profond doit s'opérer dans le monde et dans notre propre cœur. Et je termine avec ça. Regardez de nouveau à la croix. Car c'est là que la justice, la sagesse, la bonté et la toute-puissance de Dieu se révèlent plus nettement. C'est là que nous pouvons trouver du repos pour notre âme et espérance face à cette question du mal dans le monde. Cette question du mal dans notre cœur. Quand est-ce que je vais changer? Si je persévère dans ça, quand est-ce que l'autre va changer? Lui qui n'arrête pas de me faire du mal. Eh bien, Christ, non seulement est mort, a supporté le mal à notre place, nous a délivré de la condamnation, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Il a triomphé du mal et de la mort qui était la juste conséquence. Et donc, il a le pouvoir de tout refaire à nouveau. Il a le pouvoir de tout recréer à nouveau. Et donc, la toute-puissance de Dieu se révèle à la croix. Et quand le mal nous atteint, aussi c'est une question, puisque tu es tout puissant, pourquoi tu n'interviens pas? Regarde à la croix. La toute puissance de Dieu se révèle là. Et c'est l'espérance à laquelle on peut véritablement s'accrocher pour l'avenir. Voilà l'espérance chrétienne et la foi que nous pouvons avoir. Elle n'est pas dans le vent. Elle est déjà un acte de Dieu posé dans l'histoire. Et elle annonce un autre acte de Dieu qui est encore à venir. Je termine. C'est quelques versets de l'Apocalypse, la fin que vous connaissez peut-être, en tout cas j'espère. Jean, qui écrit ces lignes, a une vision de ce qui doit arriver pour la suite. Et il découvre ceci, il me montre, donc il y a une ville, il y a tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus qui sont rassemblés. Et il me montre un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie, produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera, et ils régneront à tout jamais. C'est pas magnifique. Ces paroles sont vraies, elles sont attestées par celui qui est déjà venu une première fois, et qui revient. Il y a la guérison, il y a la certitude de pouvoir obtenir devant Dieu notre Dieu sans crainte. Il y a la certitude d'être débarrassé définitivement de tout mal. Alors, si cet après-midi tu batailles avec tout cela, je t'invite à regarder la croix de Jésus.